Nous allons poursuivre dans notre lecture des psaumes. Et si les dernières fois nous avons vu le psaume 23, on va tout simplement inverser les chiffres. Et on va voir aujourd'hui le psaume 32. Être pardonné, c'est pouvoir revivre. C'est déjà le thème. Merci Marie. Et là aussi, sans concertation, le Saint-Esprit... tu m'as bien roulé un tapis rouge, aussi à la parole de Dieu. Être pardonné, c'est pouvoir revivre. Donc, j'ai préparé 3 tableaux avec le texte tiré du psaume 32, et je vous invite, ceux qui ont la liberté, de lire à haute voix.
De David, cantique. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute, et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été.
Attendez. Quelqu'un d'autre ?
Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront pas. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance.
Je t'inspirerai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, ou les frênes avec un mors et une bride, dont les hommes, afin qu'ils ne se bousculent. Beaucoup de douleurs sont l'eau du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur de moi.
Merci pour cette lecture. Le psaume 32 porte l'en-tête de David. Et effectivement, c'est une des histoires qui sont plutôt mal tournées dans la vie de David. On pouvait penser, mais ce n'est pas certain, que ce texte se réfère à ce que nous lisons dans les chapitres 11 et 12 de 2 Samuel. David avait eu une relation adultère avec une femme appelée Bathsheba. Puis, dans les efforts pour masquer sa faute, il a encore commandé un crime ultime pour se débarrasser de son mari Uri, le mari de Bathsheba. Notons que au moins 9 mois sont écoulés jusqu'à ce que David arrive, peut-être plus même, ces lignes. Entre les faits et ce moment où David reconnaît, on pourrait dire enfin, ses péchés au prophète de Nathan que Dieu lui envoie. Parce que c'est le temps écoulé que l'enfant est conçu. Donc, il est né. Le temps pouvait correspondre à cette expression qui tout de suite apparaît dans le psaume « Tant que je me taisais ». Il est certain que ce psaume correspond à une situation de culpabilité parce qu'une faute a été commise. Une faute que tu peux ni nier, ni gommer. C'est devenu une réalité. Une situation de culpabilité peut parfois engendrer une forme de dépression lorsque la personne, au lieu de saisir le pardon que Dieu lui offre par Jésus, se renferme ou préfère de se renfermer, nier sa faute, préfère se cacher ou encore continuer dans sa faute, la pratiquer comme rien n'y était. Autrement dit, je préfère de rester dans les ténèbres, dans la dissimulation de la pratique de mon péché, plutôt que venir ou de de revenir dans la lumière de la vérité qui est en Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus dit en Jean chapitre 3, 19, « Jésus, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré, pourtant que la lumière soit venue dans ce monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. » Et la raison est très simple, parce que leurs actions ou leur façon de vivre étaient mauvais. Longtemps, David avait lutté contre ce sentiment de revenir dans la lumière de Dieu, mais l'Éternel n'y a pas laissé de repos. Enfin, David arrive à confesser son péché et la faute peut enfin être ôtée de son corps. Voilà ce qu'il dit. « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée. » Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait place à la sécheresse de l'été. Je te fais donc connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu m'as pardonné. La culpabilité trouvera donc son seul remède dans la honnête et humble reconnaissance des faits. Reconnaissance des faits qui ne cherche pas à s'excuser comme nous avons si souvent l'habitude. Ou de minimiser ma faute. C'est pas si grave quand même. Ou se comparer avec d'autres. D'autres ont fait pire, vous savez. Ils existent pire que moi. Dieu merci, donc je préfère partie des meilleurs, qui ne cherchent pas à s'excuser par des éventuelles circonstances. Comme tout le monde le sait, quelle que soit la situation, c'est jamais à moi la faute, c'est toujours à l'autre. Chacun est bienvenu pour que je jette sur lui ma faute. Ne rien assumer, c'est fuir les disputes et les réprimades. C'est pas moi, c'est mon frère. Et tout le monde connaît cette phrase, cette parade pour rejeter sa propre faute sur quelqu'un d'autre. Je me rappelle tout simplement cette confrérie de filles qui était chez nous à la maison. La faute était toujours à l'autre. D'ailleurs, j'ai fait pareil avec ma sœur, je me rappelle. Il s'agit là, finalement, qu'une fuite devant l'évidence des faits. On pourrait dire qu'il s'agit aussi, si on ne reconnaît pas les faits comme tels, d'une immaturité personnelle. Et pour certains, même une immaturité spirituelle. Il s'agit, disait quelqu'un, ne pas avouer ses torts. Il s'agit tout simplement de la lâcheté. D'être responsable de ses actes. Serait-ce possible que tu fasses partie, toi aussi, des personnes qui n'assument jamais ou rarement leurs responsabilités, qui regardent à gauche, à droite, et s'ils ne trouvent personne, ils font référence aux circonstances pour se justifier. Si ce n'est pas le cas, on connaît certainement des personnes qui le font. Dans un conflit, une telle personne n'a pas sa part de responsabilité et ce n'est jamais sa faute. Tant que je me taisais, verset 3. Il y a là aussi l'orgueil personnel. Car c'est pas évident, c'est parfois même très dur de reconnaître qu'on s'est trompé. Ou trompé lourdement. Et puis, les difficultés que nous connaissons tous, de nommer nos erreurs et y mettre les paroles justes, les dénoncer par les dire. La difficulté de mettre les paroles sur ce que je ressens comme étant un péché. Je ne sais pas quoi dire, comment le dire, combien de fois j'ai entendu cette phrase à la prison où j'étais aumônier. les gens sont bien évidemment conscients de leurs torts, mais comment mettre les mots dessus? Parce qu'au moment où nous ouvrons notre bouche pour dénoncer le péché, nous la mettons dans la lumière, nous la sortons des ténèbres, et par les paroles dites, par la dénonciation, nous les mettons dans la lumière du Christ. Et comment confesser ses fautes auprès de Dieu quand on ne l'a pas fait depuis longtemps, disait quelqu'un. Ça fait longtemps que j'ai pu prier Dieu. Comment reprendre contact? Comment renouer le contact? Est-ce qu'il va me recevoir toutes les questions, la honte et la culpabilité? Les proverbes le disent de cette manière-là. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Mais celui qui les reconnaît et les abandonne, il est pardonné. Proverbe 28. Ça pouvait être aussi une parole du Nouveau Testament, vous ne trouvez pas? Pour ceux qui agissent mal, un autre proverbe. Leurs fautes sont des pièges. Mais ceux qui agissent bien se réjouissent en dansant de joie. Proverbe 29, verset 6. Et puis apparaît enfin dans notre psaume le verset 5. Comme un soulagement, comme une libération de pouvoir sortir enfin du piège qu'est le péché. Voilà ce que dit David. Mais je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. Je dis, je vais avouer mes fautes au Seigneur. Et toi, tu m'as enlevé le poids de mon péché. C'est dans la confession de notre faute, c'est dans l'abandon de notre faute à Dieu qui nous accorde un plein pardon en Jésus-Christ. Je crois que nous savons tous que la prière libère. Mais combien de fois nous restons piégés par le péché et ses conséquences parce que on ne franchit pas cette porte. C'est dans la confession de notre faute, c'est dans l'abandon de notre faute à Dieu qui nous accorde un plein pardon. Avouer, confesser ma faute, m'ouvre de nouveau la voie de la rencontre personnelle avec Jésus, cette relation que j'ai bien perdue aussi longtemps que j'étais dans le péché. Parce que je connais personne qui reste dans le péché, qui persiste de vouloir rester dans le péché, et qui peut rester dans la relation avec le Seigneur. C'est la découverte, ou pourquoi pas la redécouverte, que Dieu m'accueille sans jugement et dans son amour. Je retrouve tout tremblant le moment privilégié avec Jésus, tant espéré. Je peux recevoir enfin de nouveau son pardon. Quand je me reconnais pécheur, c'est laisser Jésus venir à moi dans le but pour me sauver. Demandez et vous recevrez. Je demande pardon et je reçois le pardon. Mais Jésus dit aussi, vous n'aurez rien parce que vous ne demandez rien. Avouer son péché est comme une rénovation, comme une renaissance, comme une régénération, comme une guérison. Mais d'une manière ou d'une autre, avouer ses péchés, demander pardon, c'est une libération. Je reconnais de nouveau ce que le mot « paix » veut dire. La paix avec moi-même, comme la paix que je fais avec Dieu, et sa paix revient dans ma vie. Quel soulagement de ne plus cacher, de ne plus devoir cacher. Quel soulagement de ne plus devoir vouloir excuser mon péché. Voilà, c'est une façon de me libérer, de redevenir un homme, une femme, un adolescent libre. La confession de péché nous permet un approfondissement de la réflexion de qu'est-ce qui est ma vie ou qu'est-ce qui est devenu ma vie. et les conséquences des péchés. Je m'arrête, je regarde la personne que je suis devenue et je me dis, je veux changer. Je voudrais revenir dans la présence de Dieu. Et c'est pour cette raison-là, je confesse mes péchés. Voilà ce que dit l'apôtre Jean dans sa première lettre, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pardonner, c'est aussi nettoyer, purifier, sortir propre là où par le péché nous avons bien sali notre vie. Il dit pareil dans le verset 7, si nous marchons dans la lumière comme Jésus est lui-même la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Je vous ai dit qu'avouer son péché est comme une rénovation, comme une renaissance, comme une régénération, comme une guérison. C'est retrouver la paix que seul Dieu peut nous donner dans cette paix que nous avons perdue aussi longtemps que nous restons dans les ténèbres parce que nous préférons le péché. Une fois que nous avons avoué notre péché, et une fois que nous avons confessé nos torts, qu'est-ce qui devrait changer dans ma vie? Qu'est-ce que je devrais apprendre? Qu'est-ce que je devrais désormais éviter pour que je ne tombe pas de nouveau, toujours dans les mêmes pièges, parfois du même péché? Vous connaissez tous ce proverbe, mieux vaut prévenir que guérir. Cette expression demande à quel point la prévision dans notre vie est le meilleur moyen de réduire les accidents de vie provoqués par le péché. Si l'ancien manuel de notre vie sur lequel je construisais ma vie s'avère comme inutile, je vais construire désormais ma vie en suivant tout simplement un autre manuel qui m'instruit autrement. La Bible dit que la parole de Dieu dit tellement vrai, et je lui accorde bien volontiers ma confiance. Elle me parle, et moi, je suis tout lui. Dieu dit à David en verset 8, « Je vais t'instruire, je vais te conduire, je vais te conseiller et je vais veiller sur toi. » Dieu se préoccupe de notre manière de vivre et des choix qui sont les nôtres. Et dans la vie, il y a toujours un choix qui s'impose, dit-on. Voilà, Dieu dit en Deutéronome chapitre 30, verset 19, « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, maintenant choisis. Et maintenant choisis, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Postérité, désolé. Nos décisions influencent bien plus que les circonstances notre vie. Et les choix que nous faisons aujourd'hui peuvent avoir une conséquence sur notre vie à nous, comme sur la vie de nos enfants, et vu que nous sommes grands-parents, sur nos petits-enfants. Mais que choisir? Mais que choisir? Vous avez le pouvoir de choisir. C'est pas Inch'Allah, si Dieu le veut. C'est moi qui est appelé à choisir ma voie. Choisir à qui je voudrais faire confiance. Choisir à qui je voudrais prêter mon oreille. Prenez donc des sages décisions. Dieu veut donc nous donner des instructions sur notre manière de nous conduire en tant qu'hommes et femmes et jeunes que nous sommes et nous instruire sur notre manière d'être chrétiens que nous sommes dans ce monde, afin que ma vie devienne ou redevienne heureuse. J'aimerais bien conclure. trouver ou retrouver son chemin dans la vie, après avoir fait fausse route, n'est pas toujours chose facile et les uns les autres peuvent en témoigner. Et si une voix bienveillante nous instruisait? Et si une voix bienveillante nous conduisait? Une voix bienveillante nous conseillait? Et si quelqu'un de bienveillant veillait sur nous? Que diriez-vous? Pour trouver ou pour retrouver notre chemin dans la vie, Dieu veut être à notre côté. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Mais moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Le prophète Ésaïe, chapitre 48, verset 17. Et la traduction parole vivante traduit de cette manière. Je t'enseigne ce qui est le meilleur pour toi. C'est moi qui te conduis sur le chemin où tu marches. Dans le psaume 73, verset 24, nous lisons « Tu me conduis par ton conseil ». La Bible dit aussi de rester en compagnie de Dieu et d'en retirer le meilleur parti de notre vie. Et encore une fois, un psaume, le psaume 25, les versets 12 et 13, « Quel est l'homme qui met sa confiance en Dieu ? L'Éternel lui montre la voie. » Il doit choisir et son âme reposera dans le bonheur. Où voulez-vous que votre âme repose? Moi, j'ai choisi dans le bonheur. Pouvoir vouloir enfin quitter le chemin de malheur que provoque le péché pour trouver et pour retrouver le bon chemin qui s'ouvre devant nous par le pardon de nos péchés. Car être pardonné, c'est pouvoir revivre. Je vous laisse maintenant un petit moment en silence entre vous et le Seigneur. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être dites? Enfin, est-ce que un nom doit être mis sur un péché pour que ce péché sorte des ténèbres de ta vie? Et que vous rentrez ensemble dans la lumière juste de notre Seigneur, que tu puisses être renouvelé, rénové, guéri et libéré de ton péché. Je vous invite à la prière. Je vais terminer ce moment après un petit moment de silence.